Vous donner mon analyse par rapport au balagan qu'il y a maintenant, mais une analyse générale, pas spécifique au cri qu'il y a à la Knesset aujourd'hui ou hier ou demain. La résurrection du peuple juif, elle se fait de ce qu'on a pu en voir jusqu'à maintenant. Moi, j'analyse quatre temps différents. Il y a pour moi toute la période entre, on va dire, 1900 et 1948. Pour être clair, entre 1897 et 1948. C'est-à-dire, depuis le premier congrès sioniste jusqu'à la création de l'État d'Israël, on a 50 ans, 51 ans. Et pour moi, cette partie-là s'appelle « On a un objectif et c'est tout ». Et on suit un seul objectif, c'était la création d'un pays juif. Évidemment, je commence à 1897 au premier congrès sioniste. En fait, on pourrait commencer déjà avant, bien sûr. Mais disons que avant, c'était on parlait. À partir du premier congrès sioniste, on a un vrai plan d'action et on essaye de mettre ça en place. Même si c'est pas Herzl qui va réussir à le mettre en place, il y a quelque chose qui se passe. Ça y est, c'est plus seulement des parlotes, c'est on commence à travailler dans le concret. Donc il y a un objectif. Quand tu as un objectif, même si on n'est pas d'accord, mais qu'on a un seul objectif, alors on y va.
On y va.
Et il y a des disputes, et il y a des machins, mais en vrai, on veut tous la même chose. Alors certes, et je ne suis absolument pas aveugle, je sais que pendant cette période-là, il y a eu aussi dans les années 30 en Israël ce qu'on appelait la saison. Les années 20, les années 30, où entre le Hetzel, le Lehi et la Haganah, ça se tirait dessus à balles réelles. C'est pas on criait à la Knesset. L'Altalien, c'est encore après. Mais je veux dire, même à l'époque où c'était encore vraiment les Anglais, ça se dénonçait aux Anglais, tout ça, machin. Pas évident. Mais, au final, que ce soit les membres de la Haganah ou que ce soit les membres du Hetzel, on veut créer un État, point. Et les deux sont d'accord que cet État, il sera plus ou moins libéral, plus ou moins pas religieux. Voilà, on est plus ou moins dans le même état d'esprit, il faut créer un pays. Et puis on arrive en 1948, on a créé le pays. Et là, j'analyse qu'il y a 30 ans, où on s'occupe d'un seul truc, c'est la survie de ce pays. C'est-à-dire, on est attaqué de toutes parts, et on a le temps de s'occuper de rien d'autre que la sécurité, c'est les guerres, et pas des petites guerres, c'est les guerres kiyumiyot, c'est-à-dire vitales, d'Israël, soit la guerre d'indépendance, 56, 67, 73. Et c'est une période où, en fait, on ne peut rien faire d'autre. Et tout le reste est vraiment accessoire.
C'est
le reste. La vie, comment on développe une société en Israël. On est trop occupé par les attaques de nos voisins et la survie du peuple juif.
Mais il faut bouffer.
Oui, mais même il faut bouffer, il n'y a pas vraiment de débat. Oui, il faut bouffer. Oui, c'est compliqué. Oui, il y a des tickets de rationnement. Oui, ce que tu veux. Mais en fait, ce n'est pas un débat.
Non.
Il n'y a pas d'argent pour faire autre chose. Puisque toutes les Mahamatim sont faits pour tous les efforts pour se défendre. 73, la guerre de Kippour, on la gagne. Et vous remarquerez que c'est la fin des guerres vitales d'Israël. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ça y est, c'est bon, on a gagné. On a gagné. Depuis, il y aura des guerres, il y aura des attaques, mais aucune des guerres qui vont suivre, que ce soit la guerre du Liban numéro 1, la guerre du Liban numéro 2, toutes les opérations à Gaza, à aucun moment, il y a un danger pour l'existence même de l'État d'Israël. Donc à partir du moment où, dans les années 70, la survie du peuple juif est acquise, maintenant, on va pouvoir commencer à s'occuper de l'autre problème très important, à savoir l'économie. Maintenant qu'on est arrivé à la survie autour, maintenant il faut régler la survie de dedans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a à ce moment-là, avec l'arrivée de Begin au pouvoir en 77, il y a une vraie révolution. Mais je ne parle pas cette fois au niveau politique extérieure, machin, mais non, au niveau économique. Tous ceux qui se rappellent d'Israël avant les années 80, c'est le tiers monde, c'est le quatrième monde. C'est un pays pauvre, Israël. C'est un pays où il se passe rien, où c'est très moche, où il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'économie. Moi, je me souviens, et encore, moi, je suis arrivé en 2003 en Israël. En 20 ans, ça n'a rien à voir. Moi, je me rappelle que je me baladais sur la rue Yafo, j'avais l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Et aujourd'hui, non, je te raconte même pas dans les années 80.
Les c'était du ça.
Mais en 67, il y a eu une explosion économique formidable.
Oui, mais cette explosion économique en 67, elle ne peut pas être réalisée dans les faits, parce que, un, il y a encore toujours le problème de Bitachon, et deux, dans la mesure où tu as toujours un système économique, qui est un système économique basé sur le socialisme de l'époque, machin, tu ne peux pas développer quoi que ce soit. Le fait que dans les années 70, ça y est, on a pu. On s'occupe évidemment de la sécurité, mais on peut aussi mettre maintenant nos œufs dans un autre panier, et qu'on décide de devenir un pays capitaliste, et qu'on ouvre le marché, et que bah, y a une révolution économique sur 20 ans, bah, même 30 ans, allez, on va dire. Où, en fait, ce qui occupe Israël, c'est bah, le fait de maintenant établir un pays qui survit au niveau intérieur. Donc, il y a les 30 premières années, la survie extérieure. Les 30 années suivantes, l'économie, la survie intérieure. Et donc, maintenant que j'analyse ça à partir de 2010, ça y est, Israël est une superpuissance économique. Elle a survécu, Mazé survécu. Elle a réussi à sortir sa tête de son épingle du jeu. Pendant la crise de 2008, hein, mieux que n'importe quel autre pays.
On est la 8e.
Bon, maintenant, on fait partie des 10 puissances mondiales. Les amis, ça y est, Israël n'est plus en danger au niveau de son existence. Vous allez me dire l'Iran. Pour l'instant, l'Iran, ce n'est que des paroles. On n'a jamais été en guerre avec l'Iran.
On va l'être
ou pas, on verra bien. Mais je veux dire, on a déjà assez de problèmes avec notre histoire présente et passée avant qu'on se prenne la tête pour le futur. Maintenant, évidemment qu'on est toujours sur le pied de guerre, qu'on est toujours sur le qui-vive et que truc. Je pense qu'honnêtement, il peut évidemment y avoir un truc qui va exploser et tout va changer. Mais j'ai l'impression que c'est plus, et pour les Iraniens qui nous aiment pas, parce que je ne parle pas du peuple iranien, parce qu'il y a plein qui voudraient revenir à la politique, pas forcément du Shah, mais je dirais une politique qui n'était pas religieuse comme c'était avant, mais enfin bon. Et les Iraniens qui ne nous aiment pas, et nous, ça nous aide bien d'avoir un grand ennemi et de pouvoir toujours, dès qu'il y a un vrai problème à l'interne, de dire attention, il faut faire attention à ce qui se passe dehors. Ça évite de régler les problèmes. Ce que je pense, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que la sécurité d'Israël est assurée, que son économie est très forte, ça y est, maintenant on peut enfin se poser la vraie question qu'on ne pouvait pas avant, parce qu'il fallait structurellement se mettre en place. Et 60 ans, ce n'est pas énorme hein, dans un pays. Où était la Suisse après 60 ans. Voilà, maintenant on peut se poser la question,
c'est quoi ce
pays? C'est quoi ce pays? Qu'est-ce qu'on veut être? Qui on est? La question de l'identité. Et depuis les années 2010, je pense que c'est ça qu'on parle. C'est la question de l'identité. C'est pas Bibi ou pas Bibi, hein. C'est pas la réforme ou pas la réforme. C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est quoi l'identité de ce pays? Est-ce que la Torah, ça fait partie intégrante de l'identité de ce pays? Ou est-ce qu'on est un pays occidental comme tous les autres? C'est ça la vraie question et les vrais enjeux. Donc quand tu vois les débats à la Knesset, machin, la réforme, en fait, tout tourne autour de cela. Le monde chiloni qui te dit vous êtes en train de dévoyer le pays qu'on a construit. Évidemment, ça n'a plus rien à voir avec le pays qu'on a construit. Non, c'est Nahon.
Moi, je vais te dire, le monde chiloni, pourquoi je pense, c'est une idée que j'ai, ils se battent aujourd'hui parce qu'ils se disent, dans 4 ans, il y aura encore plus de Haredi, plus de Kippas Rougot et tout. Ils n'ont plus aucune chance.
Eh oui.
Mais je pense qu'ils n'ont plus aucune chance.
Nous on le sait. Et puis nous on étudie, on voit que c'est le processus qui est déjà marqué dans les prophètes. Mais donc voilà, donc la question elle est identitaire. Qui on veut être? Et donc ça crie et ça s'excite et machin. Mais ça adhère. Je pense qu'il faut faire preuve, c'est dur, hein, mais il faut qu'on fasse preuve de patience et de corroir parce que oui, c'est des choses qui sont en train de se passer. C'est des vrais processus.
Oui, mais ça ne se met pas en place. Deux secondes. Oui, c'est pour ça qu'il faut de la patience. Ouais. Ça se passe, mais ça se met pas encore en place.
Là, on est à la phase on crie.
Oui, mais il n'y a même pas un petit début de.
Là, on est à la phase on crie. On n'est pas encore à la phase on discute. Là, on crie. C'est-à-dire, chacun il sort ce qu'il a à sortir. Mais comment ça la Torah, tu crois que c'est pas important? Mais si on n'a pas la Torah, on n'a rien. Ouais, mais comment tu peux ne pas participer à l'effort de guerre avec tout le monde?
Par rapport à notre histoire, moi je trouve qu'on est pas mal.
Mais oui. Mais c'est
on
évident.
On est pas mal aujourd'hui.
C'était évident. Donc voilà, ça c'était les 10 minutes sur la situation actuelle. Voilà, c'est mon analyse, je ne sais pas si elle est bonne.
On vend même des armes à l'Allemagne.
T'as vu ?
Un contrat de 4 milliards de dollars.
C'est pas mal, hein ?
Incroyable.
Qui l'aurait cru ?
Hein ?
Qu'on vend 4 milliards de dollars d'armes à l'Allemagne.
Ah oui, j'ai vu ça aujourd'hui.
C'est quand même fou, ça.
Macron, il est très, très pas content.
C'est dingue, on vend plus cher à l'Allemagne.
Ben attends, mais c'est quand même fantastique.
On peut le faire. L'Allemagne fait chaud, hein ?
Mais, nounou, ils ont rien, si tu veux faire. Top. Allez, nous on revient maintenant dans notre étude du livre de Bereshit. Nous sommes donc à la fin du chapitre Memchet, ça y est, Yaakov a demandé à Yosef les dernières volontés pour son enterrement. Il a béni les enfants de Yosef, Ephraim ou Ménaché. Et il termine en disant, Yomer Israël el Yosef, iné anochi met. C'est qui met ? C'est Israël. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça y est, maintenant... J'ai dit ce que j'avais à dire, la galoute va véritablement commencer, donc la dimension de Israël, Pfeifen. Donc, il y a un Ochim met, vaya Elohim immachem, ve shivetrem, el eretz avotechem. Donc, Israël meurt, mais en fait ne meurt pas. En fait, il meurt, mais il est en état de coma pour pouvoir se réveiller un jour, puisque ve zirethem, ve shivetrem, ve shivetrem, el eretz avotechem. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, bien que la dimension d'Israël tombe en léthargie maintenant, elle va revenir. C'est comme ça qu'on commence l'exil. On commence l'exil en sachant qu'on va en sortir. D'accord ? Vanani natati lecha shechem echad alachecha asher lakarti miyad haemori becharbi ou bekashti. Mazé. Et je t'ai donné un shechem echad alachecha. מזה שכם אחד, ראשי ידידי, שכם ממש, היא תהיה לך חלק אחד יתרה על אחיך. Rappelez-vous, Yosef, maintenant que c'est lui qui a été nommé comme étant véritablement le Bechor, le successeur, alors il a deux parts d'héritage. Donc on pourrait dire, שכם אחד על אחיך, par rapport à tes autres frères qui ont une partie d'héritage, toi tu en auras deux, Ephraim ou Ménaché. Mais Rashi ne dit pas ça, Rashi nous dit, non, ça c'est la ville de שכם, qui te revient, à toi Yosef. C'est effectivement là-bas que Yosef va être enterré. Le tombeau de Yosef, c'est à Shrem. Ok ? Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'il te dit « Asher lakarti miyad haemori » c'est Yaakov qui parle « que j'ai conquis de la main de l'Hémoréen becharbi ou bekashti » avec mon épée et mon arc. Il fait référence à qui ? Qui a détruit la ville de Shrem ? Ben, c'est Shimon et Lévi. Avec la fameuse histoire de Dina.
Bah oui.
Seulement, si je me souviens bien, Yaakov, il n'était pas d'accord. Donc, il a bon dos de dire maintenant, c'est moi qui ai conquis Shrem. Oh, l'eau pas chute. C'est-à-dire que Yaakov, ici, il comprend. Il fait tchouva. Il comprend que c'était bien ce qu'ils ont fait, Shimon et Lévi. Regardez ce que dit Rashi. Shargu Shimon et Lévi et Anche Shrem, Nitkanesu kol suivotehem, leizdaveg lahem. וחגר יעקב כלי מלחמה כנגדם. C'est quoi ? Vous vous rappelez, Yaakov, il avait dit, vous avez fait ça, c'est pas bien, parce que tous les pays qui seront autour de nous, ils voudront nous attaquer. Et finalement, la Torah nous dit, ויחיטת אלוהים על כל העמים אשר סביבותם. Que tout le monde a eu peur, finalement, de Bnei Israël. Pourquoi ? Parce que Yaakov est rentré dans le combat. Lui aussi, il était prêt à se battre. Pas seulement les enfants. Et donc, Yaakov, il donne finalement... un tokef, finalement, il donne une légitimité à ce qu'ont fait Shimon et Lévi. Tov, beseder. Et là, maintenant, on a terminé la page Yaakov et Yosef. On peut parler de la page Yaakov et ses enfants. Vaikra Yaakov el banav, vayomer, et asfou, vaagid alachem, chapitre 49. Chapitre 49. Alors, c'est le chapitre 48 là. Il est là. Vaïkra. Ok ? Donc, Vaïkra Yaakov el Banav. Yaakov appelle ses enfants. Vaïomer. Ve'easfu. Ve'agida lachem et asher ikra etrem be'acharit hayamim. Rassemblez-vous. Et ainsi, je pourrai vous dire ce qui va vous arriver be'acharit hayamim. Je vais vous dévoiler ce qui va se passer. Bah, Yaakov, c'est un prophète. Si Dieu il décide de lui montrer l'avenir, il lui montre l'avenir. C'est-à-dire ? Mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce que nous dit Rashi. Parce que Rashi nous dit Agida lachem, bikesh legalot et taketz. ונסתלקה ממנו שכינה והתחיל אומר דברים אחרים. Très bizarre. Yaakov a voulu leur raconter la quête.
Quoi? Leur raconter quoi?
La quête.
La fin.
La fin de l'histoire.
Quête.
Quête, c'est la fin. La fin de l'histoire. Je vais vous expliquer dans deux secondes de quoi il s'agit. Et Rachel me dit, mais finalement, la présence divine s'est retirée de lui et il s'est mis à parler d'autre chose. De quoi? Ben, d'après le livre de la Torah, Acharit Hayamim. Alors, il y a une différence entre Ketz et Acharit Yamim. Dans la Torah, quand on parle de Ketz, c'est la Géoula finale. Quand on parle de Acharit Yamim, c'est à chaque fois qu'on sort d'exil. À chaque fois qu'on sort d'exil, ça s'appelle Acharit Yamim. Mais The Sorti, c'est Ketz. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov voulait dévoiler à ses enfants l'écrit à la Knesset. Voilà, c'est ça que Yaakov voulait expliquer à ses enfants. Qu'il allait avoir la réforme et pas la réforme, et Bibi et pas Bibi. C'est ça qu'il voulait dire Yaakov. A Geoula, Sofit, a Ketz, ce que nous vivons. Finalement, Istalka Mimeno Shrina, et il a commencé à parler d'autre chose. De quoi? De quelle va être la situation du peuple juif lorsqu'ils vont sortir d'Égypte. C'est-à-dire, au lieu de parler de la Géoula, il parle de une Géoula. Ok? Alors pourquoi est-ce que Nistalka Mimeno Shrina? Makara. Pourquoi? Eh bien, nos sages vont nous dire la chose suivante. Pourquoi Nistalka Mimeno Shrina? Parce que tous les enfants sont rentrés à son chevet, et c'est à ce moment-là que la présence divine est partie. Ah! Yaakov se dit, ça, c'est parce qu'il doit y avoir un de mes enfants
qui n'est pas complètement baissé.
Qui va partir. Et il pensait à qui? Il pensait à Dan. Il pensait que Dan avait une tendance déjà avec un pied dehors. Ah.
Partir où, ça veut dire?
Sortir du clan d'Israël. À ce moment-là...
Avodah Zara et compagnie.
Et surtout compagnie. Non, ça veut dire Avodah Zara, c'est une chose, mais l'assimilation, c'en est une autre. Ok? Et comment est-ce que les enfants ont fait pour... parce qu'ils ont bien vu que leur père était contrarié. Et à ce moment-là, nous disent nos sages que les enfants se sont rassemblés autour de Yosef, de Yaakov, et lui ont dit « Shema Israël !» C'est qui Israël? C'est Yaakov. « Hashem Eloheinu, Hashem Echad. »« Keshem she'en belipcha ela echad, en belibenu ela echad. » De la même façon qu'en ton cœur, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu, bah, sache que chez nous, c'est pareil. Ah! Bon, alors c'est bon. Il a commencé à parler. Ils l'ont rassuré. D'accord? Et donc là, on va commencer en fait la liste des brachot que donne Yaakov à tous ses enfants. Ben, c'est pas mal. Avant de partir, papa bénit ses enfants. Et cette bénédiction n'est pas seulement pour monsieur et madame un tel. Mais vous comprenez que c'est la carte d'identité du peuple juif. Si on devait créer un gouvernement, voilà, tu m'as demandé de faire un nouveau gouvernement parce que c'était le balagan. Eh bien, voilà, le nouveau gouvernement, il est là, il est marqué. On sait qui doit prendre quel ministère en fonction de ce qui est marqué ici. Alors, on va essayer de comprendre ça ensemble, Léat, Léat. Mais avant de passer sur chacune des tribus, j'aimerais juste vous lire le verset qui vient clôturer les brachot, puisque le verset qui clôture les brachot, c'est... le verset Kafret qui nous dit Kol Ele, hein? Kol Ele Shifte Israël, voici tous les tribus d'Israël, Shneim Asar, il y en a 12, Vezot Asher Diber Laem Aviem, voilà ce que leur père leur a dit, Vevarech Otam, il les a bénis, Ish Asher Kevirchato Berach Otam, chacun selon sa bénédiction. Et on va voir qu'effectivement, chacun a une autre bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont toutes des bénédictions, y compris celles qui ne ressemblent pas à des brachot. Et ce sera à nous d'essayer de comprendre comment est-ce que c'est oui des brachot, et même si le style nous paraît compliqué. D'accord? Alors allons-y. On reprend donc la suite de ce qu'on a dit, et on arrive au verset Gimel, avec le premier des enfants, Réhouven. Alors, on va lire les brachot, on va les traduire, et vous allez me dire donc quelle est la qualité et le défaut du bonhomme. Ok ? Bah oui. Parce qu'on veut savoir quel est son ministère.
Le potentiel.
Donc quel est le potentiel et quels sont les dangers. Ok ? Shimon, Reuven, Bechori Ata, Kochi, Vereshit Oni, Yeter Se'et, Veyeter Az, פחז כמים על תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצוי עליי. מה זה? ראובן, tu es mon aîné. כוחי, tu es ma force. Et le début de ma semence. Pour ça, nous dirons que jamais Yaakov n'a eu de Shirvat Zera Levatala, il n'a jamais eu d'épanchement non désiré. La première semence qui est sortie de son corps, c'est la semence pour enfanter Réhouven. Hey, tu es ma force par excellence. Psst, ça, c'est une bracha magnifique. Yeter se'et ve'yeter az. Tu es impétueux et tumultueux, tel le torrent. Pachaz kamaim. Ce que je viens de dire. Tu es fougueux comme le torrent. Al totar. Ki alita mishkeve avicha. As chilalta itsuyala. Mais cette qualité que tu as, elle te fait aussi être impulsif. Et c'est ce qui va te faire fauter. Lorsque tu as fauté, par exemple, avec Bil'a, que tu as mélangé les couches et tout ça. Machin. Quelle est la qualité de Réhouven, donc ? Puissant et Alors, ministre de la guerre, on va voir, parce que ben voilà, parce que si tu mets un impulsif en ministre de la guerre, oh, il va voy. Hein, c'est vrai qu'il est très fort, mais il réfléchit pas toujours. Donc c'est compliqué.
Il est impulsif.
Il est impulsif. Il a une grande énergie, mais il est impulsif. Est-ce que tu vas lui donner à lui les clés de toute l'armée? Ça peut être compliqué.
On remet le représentant à l'ONU.
On peut le mettre représentant à l'ONU, ça peut être pas mal. Moi, je le mettrais en tant que... Il n'y a pas ce poste-là en Israël, mais on peut l'inventer. Il y a aux États-Unis le vice-président.
Ah.
Je le mettrais en numéro 2.
Ah, oui.
C'est pas lui qui décide, mais c'est lui qui... Yalla !
Qui donne l'impulsion.
Voilà, il donne l'impulsion. Il a la force pour ça. Il est quand même béchor à la base. C'est-à-dire, mais il a montré qu'il était trop impulsif pour guider. Ça, c'est Réhouven. Ensuite,
Shimon
et Lévi. Ah tiens, ils sont ensemble. Shimon et Lévi, achim. Kle Hamas, mecherotem. Besodam, al tavonafshi. Ubi kealam, al techat kevodi. Ki beapam, argu ish, ubirzonam, akrushor. Arur apam, ki az, vevratam, ki kashata. Achalkem be Yaakov, veafitzem be Israël. Là, c'est dur de dire que c'est une bracha. C'est pour ça que je vous avais lu avant la conclusion qui dit que c'est une bracha chez chacun. Alors, Shimon et Lévi, d'abord, on les prend ensemble. Et on dit ils sont frères par excellence. Bah, déjà, ça, c'est une qualité magnifique. C'est-à-dire que Shimon et Lévi, c'est d'eux qu'on apprend ce que c'est la fraternité. Certes, c'est quelque chose de très important. Aval, le problème, c'est ça. Justement. Shimon et Lévi, achim, kle chamas mecheroteem. C'est des fanatiques. Hamas, c'est la violence. C'est des violents. On a vu ce qu'ils ont fait à Shrem. Ils ont détruit toute la ville. La Ron, tous les deux. Donc, ils sont comme ça, mais d'un autre côté, c'est des fanatiques. De quoi ? Pas de la même chose. On va voir plus tard, là, on ne le voit pas ici, mais on le voit plus tard dans l'histoire. Shimon est un fanatique. Un fanatique nationaliste, alors que Lévi, c'est un fanatique religieux. Ah bah oui. Rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'ils ont été détruire Shrem ? Ils ont dit, Achezona yaaset achotenu. Quoi, notre sœur, c'est une prostituée ? Regardez comment ils la traitent, on les massacre tous. C'est le kavod de quoi ? Du peuple juif ? Ou de la Torah qui a été bafouée ? Nesta nevela asta be Israël lishkav et bat Yaakov. Donc on a deux fanatiques. Tu peux certainement pas donner à ces gens-là le contrôle du pays. Aval. ils sont très compliqués à gérer, ces deux-là, vous savez quand ? Quand ils sont ensemble. Quand ils sont tous les deux, ils sont ingérables. Il y a mon ami d'enfance qui vient manger des pâtes bientôt. Il m'a dit,
ah, tu peux venir, hein.
C'est dimanche que les pâtes, il paraît.
Ah oui,
c'est ça.
Tu veux, tu peux venir.
Ah, il m'a dit, j'ai mangé avec lui la semaine dernière à Paris, il m'a dit, dans deux semaines, je vais manger des pâtes. Ah. Maintenant, quand on était tous les deux, enfants, c'est, pour tout le monde, c'était insupportable.
Qui est qui ?
Simon Malher, le fils de Daniel et Laura Malher. On a grandi ensemble et on était insupportables ensemble. Dès qu'il venait dormir chez moi, c'était... insupportable pour mes parents, dès que j'allais dormir chez lui, c'était insupportable pour ses parents. On était insupportables ensemble quand on était aux EI.
Ils sont calmés, tous les deux.
Non, c'est juste qu'on n'est plus ensemble. Remets-nous ensemble, tu verras. Et en fait, c'est ça le truc. Nous dit Yaakov, Besodam al tavo nafshi. Sod, ne me dis pas que ça veut dire le secret. Qu'est-ce qu'il traduit, lui ? Besodam al tavo nafshi. Comment il traduit ?
À leur dessein, que mon âme ne s'associe point.
Ah, à leur dessein. Alors, ouais, bah, c'est pas ça que ça veut dire. Besodam, ça vient du mot sod. C'est un secret, certes. Mais, quel est le rôle de la Torah du sod ? Là, on fait un peu de Kabbalah. Allez, c'est parti. Hein ? Non, mais ça va, c'est une Kabbalah facile là qu'on va faire. Quel est le rôle de Torah Tassod ? Il y a un rôle de la Torah du secret. Le rôle, c'est réunir. Le'ached. C'est ça le rôle de Torah Tassod. Tout. C'est-à-dire le rôle de Torah Tassod, c'est de connecter tout à Dieu. Le rôle de la Torah, de la halakha, c'est de séparer. Zé moutar, zé asso. Ça, c'est le rôle de la halakha. De dire avec ça, tu peux te connecter à Dieu, avec ça, tu ne te connectes pas à Dieu. C'est ça la halakha. Non ?
Matériel et connecté à Dieu.
J'ai pas parlé du matériel ou pas du matériel.
Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ?
J'ai dit par exemple, le cochon, tu peux pas te connecter à Dieu avec lui. Le bœuf, oui. Ça, c'est le Torah de la halakha. La halakha, elle te dit on a le droit de manger du bœuf, on n'a pas le droit de manger du cochon. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la halakha, elle va toujours me mettre une ligne pour me dire ça, là, tu peux te connecter à Dieu, et là, sache que vraiment pas. Ok ? C'est très important. Mais la Torah de la Kabbalah, c'est pas la halakha, hein. La halakha c'est la halakha. Mais la Kabbale va te dire, oui, certes le cochon il n'est pas comestible, on ne peut pas le manger, mais voilà toutes les valeurs incroyables qu'il y a dans cet animal-là et quel rapport ça a avec Dieu.
Je l'ai créé aussi.
Non, mais ça va au-delà de ça. Non, tu as raison, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que le monde de la Kabbalah, c'est essayer de voir les étincelles de sainteté qu'il y a dans tout. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les utiliser. D'accord ? Donc, Torah Tassod, son rôle, c'est de donc tout connecter ensemble. Si seulement on avait pu inventer un mot en français pour expliquer qu'il y a deux éléments qui étaient séparés et qu'on a maintenant recollé ensemble. Si seulement il pouvait y avoir un mot comme ça en français.
Fusion.
Il y a une fusion, c'est pas mal la fusion, mais la fusion en fait c'est changement d'état, en vérité. Je sais pas, comment est-ce qu'on pourrait parler
réunion,
comme ça, réunion, tout ça, hein? Est-ce que je sais? Vous imaginez bien que si je vous demande la chose comme ça, c'est que il y a un lien avec le mot sod.
Secret.
Non, pas secret. Sod.
Le jumelage des deux.
Est-ce que vous connaissez le mot soudé?
Soudé.
Soudé. Soudé.
Oui.
C'est quoi souder deux choses ensemble? C'est ça, tu recolles deux choses ensemble. Sod, sod, c'est la soudure. Sod, c'est coller. Donc nous dit ici le verset, qu'est-ce qu'il nous dit Yaakov ? Besodam, lorsqu'ils sont collés ensemble, altavonafshi. Je peux pas m'associer, j'arrive pas à les gérer. Ils sont ingérables. Ki, be'apam arguish, parce que regarde ce qu'ils ont fait, ils ont tué Shrem. Obirtsonam, Akrushor, et c'est aussi eux qui ont jeté Yosef dans le puits. Shor, Zeyosef. On verra après. Ok, donc il dit, je peux pas les gérer. Arur, Apam, ki as, vevratam, ki kashata. Quand ils sont ensemble, on peut rien tirer de positif. Donc, Achalkem, Be'Yaakov, Ve'afitzem Be'Israël.
Désoudé, quoi.
C'est-à-dire qu'on a dit Besodam al Tavonafshi ou Bikehalam quand ils sont ensemble, al Techat Kevodi. On n'arrive pas à les gérer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont une force incroyable, ces gens-là. C'est quoi cette force de Shimon et Lévi? De se battre pour Israël. Que ce soit pour la Torah d'Israël ou pour Am Israël. C'est quelque chose que j'ai besoin. Et la fraternité qui est en eux, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Mais je ne peux pas les laisser ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Achalkem Be'Yaakov. Vafitzem Be'Israël. Je vais les séparer et je vais les mettre un peu partout. Pourquoi? Pour que leur force soit présente partout, mais elles soient un peu atténuées. Donc, Shimon, où est-ce qu'il va habiter? Il va habiter à l'intérieur de la tribu d'Yehuda. La Nachala de Shimon, elle est à l'intérieur de la Nachala de Yehuda. C'est-à-dire qu'ils sont complètement connectés à celui qui va être le roi. Mais ce n'est pas lui qui gère. Il est complètement englobé par Yehuda. Mais il est à l'intérieur. Et donc, il va servir à quoi? Eh bien, à former les plus jeunes. À quoi? Au kavod du peuple juif. Et nous dira le Midrash que c'est de Shimon que sortaient les précepteurs qui enseignaient aux princes d'Israël. À quoi? À être fier de qui tu es. Et les Lévi'im, ben où est-ce qu'ils habitent les Lévi'im? Ben partout. Partout, ils n'ont pas d'un endroit à eux, ils sont chez tout le monde. Parce que c'est quoi leur rôle? C'est de faire en sorte que tout le monde soit connecté à la Torah. Ok? Tov. Je reviendrai sur Yehuda à la fin, parce que vous aurez compris que Yehuda, c'est lui le chef. On reviendra sur lui à la fin. Donc, on arrive directement au verset Yud Gimel. Zevulun, Lechof Yamim Yishkon. Vehu, le chofoniot, veyachato al tzidon. Zevulun, il réside sur les plages.
Les plages?
Les plages.
La mer.
Ah
oui.
Le chof yamim. Chof, c'est la plage.
Le littoral.
Vehu, le chofoniot. Il est tout le temps sur ses bateaux. Veyachato al tzidon. Il va tout le temps faire du commerce. Alors, c'est intéressant, tout le monde pense qu'à cause de ça, tout le monde se dit que la tribu de Zevulun, ils sont sur la mer. En vrai, dans les territoires, quand on regarde la carte, Zevulun, ils n'ont pas un accès à la mer. Donc, quand on dit qu'ils sont sur le littoral, ça ne veut pas dire qu'ils sont sur notre littoral à nous. Ils sont sur les littoraux, là où ils arrivent dans les autres pays. C'est-à-dire que Zevulun, il fait du commerce international. C'est lui qui va à l'extérieur et c'est lui la vitrine du peuple juif chez les autres. Par quoi? Par l'intermédiaire du business. Dit Razal dans la Gemara, à chaque fois qu'ils reviennent de leur voyage, les Zvulunim, ils ramènent avec eux des goyim qui veulent se convertir.
Des goyim
qui veulent se convertir. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent. Ils arrivent dans le marché de là-bas. Et ils viennent faire du business. Seulement, tout le monde est subjugué. Parce qu'ils réussissent. Et ce n'est pas des voleurs.
Ça énerve.
C'est incroyable. Hein? Non, c'est pas marqué. Ça existe dans la Gemara. On dit en quoi ils ont une importance dans le fait d'aller faire du commerce à l'intérieur. On dit c'est des gens qui amènent Am Israël à l'extérieur. Et qu'est-ce qui est la particularité chez nous? Parce qu'on n'est pas des voleurs. C'est bizarre, à l'époque tout le monde volait dans les marchés. Les Zvulunim, ils arrivent. Tout le monde sait qu'on peut faire confiance à ces gens-là. On peut leur faire du business. Tout l'inverse de l'idée du juif et de l'argent qui va se développer sous la censure chrétienne. Le Midrash, c'est avant les chrétiens. Ok? Donc notre Zvulun, ah ouais, on a oublié de donner les postes. On a dit Réhouven, c'est le vice-premier ministre. Oui. Shimon, je le mettrai moi ministre de l'éducation. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a rien de plus important que d'éduquer à être fier à qui tu es. C'est le plus important. Les mathématiques, ça passe après. D'abord, sois fier de qui tu es. Lévi, pour moi, c'est le ministre de l'Intérieur par excellence. Il est partout. Ah, c'est lui qui doit savoir comment ça se passe à l'intérieur du peuple juif. Zvulun.
Ministre du commerce.
Alors, du commerce, ouais, voilà. Je ne sais pas comment on dit commerce extérieur. Il y a un ministère comme ça. Nous, il y a là. Issachar, Chamor Garen, Rovetz Ben Amishpetaim, Yar Menucha Kitov, Vetaharetz Kinaema, Vayet Shechmo Lisbol, Veille le masse au Ved.
Paresseux.
Hein ?
Il est paresseux.
Il est paresseux. Alors non, il n'est pas du tout paresseux. Regarde. Yissachar ou Khamor Garen. Mazé Khamor Garen, c'est un âne de travail, de charge. C'est-à-dire qu'il est tout à fait capable de supporter une charge de travail énorme. Rovetz ben Amishpetaim. C'est-à-dire que lui, il ne fait que se balader entre les lois. Vayar menucha kitov, veta aretz kinaema. C'est-à-dire, je ne suis pas prêt, moi, à aller bouger. Moi, je veux rester là où je suis. Ça veut pas dire que je ne veux pas bosser. Mais je veux pas, c'est pas Zvouloun. Zvouloun, il s'en va, moi, je ne bouge pas. Vei, vayet shichmo lisbol. Il est prêt à souffrir de sa situation. Parce qu'il sait que ne partant pas faire du business, bah, il pourra pas partir en vacances. Vei le mas oved. Et il est prêt à en payer l'impôt. C'est qui, Issachar ? C'est le monde Haredi. Nous dira la Gemara, Arbe Rache Sanedraot Yatsu mi Issachar. Issachar, c'est l'homme des Torah. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire un boulot par-ci, par-là, mais il ne va pas commencer à faire des grandes études et pour avoir 3 doctorats. Ce n'est pas son truc. Moi, je veux me concentrer sur l'étude de la Torah. Et je suis prêt à en payer le prix. Oui, c'est vrai. Je n'aurai pas le niveau socio-économique de mon ami Zvouloun, mais c'est pas grave. Je suis prêt à en payer le prix. Je ne vous demande pas à vous de changer votre mode de vie. Moi, j'ai mon mode de vie à moi et on est ensemble, il n'y a pas de problème. Toi, tu kiffes plus que moi matériellement parlant et moi, je kiffe plus que toi spirituellement parlant. De là va naître ce qu'on appelle Iska, Issachar ou Zvouloun. Que deux personnes qui se connaissent, c'est pas au niveau sociétal que ça marche, mais deux personnes qui se connaissent, il y en a un qui est fort en études de Torah, l'autre qui est fort en business, et ils vont se mettre ensemble. Ça ? Donc Issachar, pour moi...
Je surviens à tes besoins, tu surviens...
Alors, je surviens à tes besoins, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler, tu as une mitzvah quand même de travailler, et ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas une mitzvah d'étudier la Torah, j'ai aussi une mitzvah d'étudier la Torah. Je ne peux pas me fier que à ton étude. Mais, une partie de mes revenus sont pour toi, et une partie de ton étude est pour moi. Mais une partie seulement. D'accord ? Donc Issachar, c'est notre ministre des cultes. Dan. Yadin Amo. Ka'achat Shifte Israël. Yadin Nachash Ale Derech Shefifon Ale Orach. Hanoshech Gvesus Vaipol Rochbo Achor. Dan, c'est le juge. Yadin Amo. Tu te rappelles, on avait dit que Yaakov, il avait peur que Dan sorte. Le meilleur moyen qu'il ne sorte pas, c'est qu'on le responsabilise. C'est lui qui va juger le peuple juif. Pour bien savoir qui il est.
Il a les compétences ?
Il a les compétences. Pourquoi ? Il est aussi Bechor. Il est aussi le premier fils de Bila. Il est la Hava Amina, le a priori de Yosef. Dan Yadin Amo, Dan Nachash Ale Derech. Mais c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Ok, tu m'as donné mon rôle, laisse-moi le faire maintenant. C'est-à-dire, tu m'as dit que c'était très important qu'on ait une haute cour de justice. Bon, ben maintenant, je suis à la Cour suprême, tu me laisses gérer. Ça peut être dangereux quand la Cour suprême, elle se prend pour le roi. C'est-à-dire, mais il n'empêche que Dan, c'est lui qu'on va mettre comme ministre de la justice. Gad, l'Yeshuatra, c'est-à-dire Kiviti Hashem. J'espère que grâce à cela, il y aura la Yeshua. De qui ? De Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, j'attends de Dan, grâce au Mishpat, qu'il puisse dévoiler Akadosh Baruch Hu. Tout un programme. Gad, Gedoud, Yegoudenu. C'est. C'est Gedoud. C'est. Militaire. Hein? Gad, c'est l'homme de l'armée. Gad Gedoud Yegoudenu. Veu Yugad Akev. C'est le ministre de la Défense. C'est un militaire. Il est né militaire. Il est né avec un béret sur la tête. Maacher Shemena Lachmo. Veu Yiten Maadane Melech. Asher. Asher. Asher Shemena Lachmo. Il a un pain gras. Et c'est lui qui prodigue à tout le monde Maadane Melech, des denrées magnifiques. Asher, c'est Emek Israël.
l'économie.
C'est le ministre de l'économie. C'est lui qui a les terres les plus fertiles. C'est lui qui pourvoit la nourriture à tout le pays. C'est pas comme Zvouloun qui va faire le commerce international. Non, lui, il est responsable de ce qui se passe au niveau économique à l'intérieur. Alors, soit tu dis ministre de l'économie ou alors ministre, je sais pas moi, l'agriculture. Ou... À l'époque, c'était la même chose. Agriculture et économie, c'est la même chose. Bon, mais il manquerait pas un petit peu de roi ? Là, on parle beaucoup d'armée, de justice. Naftali, Ayala Shelucha, Hanoten Imre Shafer. Naftali, il court vite et il fait des beaux vers.
Un poète.
C'est le ministre de la culture et des sports.
C'est bien.
Il en faut. C'est Rachou. Ben Porat Yosef. Ben Porat Yosef. Ben Porat Aleaïn. Ah là là, Yosef. Il est top celui-là. Il est génial. Banot Saada Aleshour. Toutes les femmes le kiffent. Vaimarou Verrabo Veistemounou. Bah, les Chitzim. Ah, tout le monde le déteste. Et je croyais qu'il était génial. Vateshev Beitan Kashto, Vayafozu, Zeroe, Yadav, Midea Abir Yaakov, Misham Roe, Even Israël. Lui, il s'en fout. Il est fort et il est capable eh bien, d'être Eitan quand il arme son arc. Il est fort.
C'est le premier de la classe.
C'est le premier de la classe. Et il s'en fout de ce que les autres disent. Tout le monde dit il est joujou. Il est joujou peut-être, mais moi, je vais avoir les grandes écoles. Moi, j'irai à Sciences Po. Ouais, moi, j'aurai un bon métier. Après, c'est toi qui me serviras mes frites au McDo. Voilà, saute. Mais la vie, ve'azreka, ve'et shaddai ve'varcheka, b'chot shamayim mimal, b'chot teom rovetzet tachat, b'chot shaddai ve'racham, b'chot avicha gavru al birkot orai, at ta'avat givot olam, tiena l'rosh Yosef, ou le kolkod nezir echa. T'es le meilleur. Tu reçois les brachot de tout le monde. Enfin, c'est qui parle ? C'est son prof principal, son papa. Vous aurez compris que Yosef, c'est le modèle, premier de la classe, qui est admiré par tous ceux qui ne sont pas à la maison et qui est détesté par tous ceux qui sont à la maison, justement parce qu'il est le premier de la classe. Donc, quel est le seul et unique rôle qu'on peut lui donner ? Ah non, certainement pas, tout le monde le déteste. Il sera l'ambassadeur. Il faut qu'il soit le plus loin possible du reste de la famille. Et vu qu'à l'extérieur, il réussit super bien, eh bien, ça va être notre ministre des Affaires étrangères, notre ambassadeur. Chez les Goïms, il nous représentera, ça sera génial. Binyamin, Zev Yitraf, Baboker Yochal Ad, Vela Erev Yechalek Shalal. Binyamin, le petit loup. Il est fort en début et en fin de processus. Ba Boker Yochal Ad ou Ba Erev Yochalek Shalal. Le premier roi d'Israël, il vient de Binyamin, Shaoul. Le dernier dirigeant d'Israël avant l'exil, Mordechai, Binyamin. C'est-à-dire que Binyamin, il est bon que en début et en fin. C'est-à-dire c'est lui qui vient ouvrir le bal et c'est lui qui balaye la salle à la fin du concert. C'est-à-dire qu'il doit être toujours en contact avec la masterpiece, avec le chef. C'est lui qui va faire les discours de première partie et c'est lui qui va prendre les questions de la conférence de presse à la fin. Il est le secrétaire du parti présidentiel. Et puis, il nous faut un chef dans tout ça. Et donc, le chef, on peut revenir à Yehuda, effectivement. C'est qui Yehuda ? Iné. Yehuda ! Yoducha, ata yoducha acher. Voilà la première raison pour laquelle il est le chef. Parce que tes frères t'acceptent en tant que chef. Ata yoducha achecha. Tu inspires la confiance, le respect. Les gens veulent te suivre. C'est la qualité numéro un qu'on a besoin pour un manig.
Il y a du charisme.
Yadecha beoref oivecha. C'est pas parce que tu es kiffant et tout le monde te kiffe que tu es un loser. Tu sais mettre ta main sur le cou de ton ennemi. Quand il faut se battre, t'es là. Veishtachavu lecha b'nei imecha. Tous tes frères te nomment comme chef. Gour Ariye Yehuda. voilà l'autre qualité que tu as besoin. La patience. Tu cèdes d'abord gour et ensuite arié. D'abord lionceau et ensuite lion adulte. Léat, léat. Miterev beni alita. Kara, ravatz ke arié ou chelavi mi yekimenu. À un moment donné, tu deviens même la vie. La vie, ce n'est pas un lion, c'est le roi lion. C'est le chef de la meute. Donc, lo yasur shevet mi Yehuda. Aucune autre tribu ne pourra te remplacer Yehuda. C'est de Yehuda que doit devenir le roi. Lo yasur shevet mi Yehuda. Umchokek mi ben raglav. Ad ki avo Shilo, jusqu'au Mashiach. Shilo, c'est un des noms du Mashiach. Donc, ça veut dire que le Mashiach, il descend de Yehuda. Velo ikatamim. Osri la gefen iro vela soreka ben yatono. Qui baisse beyain le bouchot, vedam anavim suto. Chachlile enaim yain ou le ven shinaim mechalav. Dans ta terre, à toi, Yehuda, tu vas faire pousser deux grandes choses, le vin et le lait. Le vin, c'est rouge, c'est midat adin. Le lait, c'est blanc, c'est midat achesed. Il y a les deux chez toi. Il y a le vin et le lait. Le vin, c'est ce qui va pouvoir nous permettre d'arriver à la kedusha. Qui douche, on fait avec du vin. Le lait, c'est ce qui nous permet de dévoiler la kdusha de la terre d'Israël. Eretz Zavat Halavut Vash. Pour toutes ces raisons, Yehuda doit être le chef. Donc vous remarquerez qu'on vient de créer un gouvernement idéal, le gouvernement du peuple juif. Toutes ces forces-là, toutes ces brachot qui ont été données, Ish kebirchato birachotam, c'est la carte d'identité du Ham Israël. Chazak ou Balzac.
Oh yeah.
How's that going?